Pourquoi pas vieille ?
La vieillesse dans tous ses états. Une émission de partage des expériences.
Une émission de réflexion sur la vieillesse, mais surtout sur la citoyenneté, la mobilité, la culture, la solidarité. Pourquoi pas vieille ? Une émission proposée par l'association brestoise Pourquoi pas vieille ?
Donc bienvenue pour cette troisième émission de Pourquoi pas vieille ? L'échange se fait à distance de Quimper à Brest. Moi je suis à Quimper et l'équipe de Pourquoi pas vieille est à Brest avec Elisabeth, Simone, Michel et Claire. Elles sont assistées de Margot qui s'occupera de prendre le son. Donc nous débutons une série d'émissions sur l'habitat et le vieillissement. Une série qui va fonctionner selon des cercles concentriques, c'est-à-dire que nous allons débuter avec une émission sur le chez-soi, puis nous l'étendrons aux quartiers proches, à l'environnement social, à la place des vieilles personnes dans la cité. Nous terminerons notre série sur l'habitat en abordant les alternatives à l'habitat individuel. Ces émissions mêleront témoignages d'expériences du vieillissement et de l'habitat, réflexions et questionnements des politiques publiques. Donc aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder cette thématique plus au niveau de l'espace domestique, la question du chez-soi, comment on vieillit chez soi, comment évolue notre lieu de vie en vieillissant, est-ce qu'on reste au même endroit, est-ce qu'on déménage, comment ça se négocie. Donc avant d'aller sur des témoignages et des expériences individuelles, comment avez-vous abordé ce thème au sein de Pourquoi pas vieille ?
Au tout début de l'association, il y avait un atelier donc Habitat. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est comme quand, à l'époque, on avait dû faire des conférences de presse et on avait parlé de notre atelier Habitat. Et on a donc eu différentes personnes qui sont venues parce qu'elles étaient très intéressées par cette question. C'était souvent des personnes seules qui arrivaient à la retraite, qui habitaient à la campagne ou même en ville dans des maisons et qui cherchaient une solution pour habiter différemment.
La question des femmes était la suivante: où est-ce que je vais vivre quand je serai vieille ? Alors moi, je partirai d'un exemple qui est celui de mes parents. Mes parents ont vécu en ville, et puis quand mon père a pris sa retraite à l'âge de 55 ou 56 ans, parce que c'était une époque où on pouvait partir plus tôt que maintenant, ils ont décidé d'aller vivre à la campagne. Donc ils ont retapé la maison de ma grand-mère pour s'y installer. Et puis, 11 ans après, mon père est décédé, et ma mère s'est donc retrouvée toute seule dans une maison qui n'était même pas complètement finie, à la campagne. Seulement voilà, ma mère n'avait pas son permis de conduire. Donc ma mère s'est retrouvée coincée dans sa maison, à la campagne, et elle ne voulait pas partir, parce que, avec, selon les idées des vieilles personnes, il ne fallait pas vendre parce qu'elle voulait laisser du bien à ses enfants. Résultat des courses, elle est restée végétée et moisir dans cette maison jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'y laisser parce qu'elle ne sortait plus de son lit, elle ne se lavait plus, elle ne mangeait plus, elle ne faisait plus rien. Elle déprimait complètement. Pratiquement de force, on l'a mise dans une maison de retraite. Et moi, j'ai vécu ça comme une violence faite à ma mère parce qu'elle ne voulait pas partir de chez elle. Et la grosse question est, qu'est-ce qu'on fait ? On met les vieux dans des maisons de retraite contre leur gré, et si on le fait pas, c'est de la non-assistance à personne en danger. Donc moi, je suis très tiraillée entre tout ça. Je crois que j'ai toujours pas fait le deuil de cette histoire. Et en attendant, avec le recul, je pense que mes parents ont fait la plus grosse connerie de leur vie en quittant à la vieillesse, ou au seuil de la vieillesse, leur appartement urbain pour aller vivre dans une maison à la campagne, ce que je ne veux absolument pas faire. Alors en ce qui me concerne, moi j'habite dans une maison du coup en ville, une maison avec des escaliers partout, et actuellement je peux monter mes escaliers, je peux continuer à vivre dans ma maison sans aucun problème, mais il y a quand même une question qui commence à arriver dans ma tête. Si un jour mon mari ou moi-même on dégringole, on se casse une jambe, et ben dans une maison avec des escaliers partout, on sera bien embêté, et du coup on sera peut-être obligé de prendre une décision à la dernière minute, et ça sera peut-être pas forcément la meilleure.
L'escalier tourne dans l'immeuble où je perche. L'escalier monte.
Je passe
au
le micro.
Septième où je crèche quand on s'abrit.
L'assistance technique étant effectuée par Margot, je passe le micro à une autre copine.
Jusqu'à la rue,
sa course tordue. On laisse la parole à Jacqueline qui nous fait part de son expérience de déménagement par téléphone.
Avec mon mari, on habitait en campagne dans une grande maison. On avait 3 enfants. Et puis, quand il s'est retrouvé en retraite, les enfants étaient partis à droite à gauche. On ne pouvait plus rester dans cette maison parce qu'elle était tellement grande, de 180 mètres carrés, et puis il y a un grand terrain. Et c'est là qu'on me dit, on n'a qu'à pas aller vivre ailleurs, hein, on vend la maison, et puis on se lance dans un nouveau projet, quoi. On a cherché un appartement, il n'y en avait pas qui nous convenait, vu que moi je suis handicapée, et puis que je savais que mon handicap allait s'accentuer, vu que je suis polio. Alors, monsieur qui nous dit, mais vous savez qu'il y a un projet de construction. Et on a fait des options sur le plan de la construction. Donc ça fait 20 ans de ça, voilà. Et c'était un renouveau pour nous, quoi. Ça nous permettait de faire des nouvelles choses, de voir des nouvelles personnes. C'est bien beau la campagne, mais enfin, on avait des très bonnes relations entre voisins. Mais en vieillissant, les relations sont plus les mêmes, quoi. Les enfants sont partis à droite, à gauche. C'était plus la même ambiance que quand on était arrivé à la campagne. J'organise ma vie, enfin, même quand il était là. On a installé l'appartement avec, et avoir tout sous la main, facile, sans vraiment penser à mon futur handicap. C'était ça qui est assez étonnant. Et là, j'avais des soins de kiné récemment. Et il me disait, mais comment vous avez aménagé votre chambre? Je n'ai pas aménagé. Mon lit a toujours été le même, il était en hauteur. Je trouvais ça très bien, je n'ai pas eu à le changer. Hein. J'avais un lit à barreaux, je trouve ça bien. Même si je dois le changer, je vais reprendre un barreau. Je n'ai pas besoin de lit, de lit comment aménager pour handicapés. Ça ne me servirait à rien, quoi.
Avant de retrouver l'équipe de Pourquoi pas vieille à Brest, on poursuit avec un autre témoignage d'une membre de l'association Pourquoi pas vieille, Marie-Vonne, qui nous fait part de son expérience de déménagement, toujours par téléphone.
Voilà, moi je suis en train de changer. C'est-à-dire que j'étais donc à Brest depuis ma naissance, donc voilà, en ville, je suis une urbaine, j'ai travaillé à Brest, enfin voilà, c'est ma vie, toute ma vie s'est faite là-bas, jusqu'à maintenant, et là donc j'ai décidé, enfin on a décidé, parce que moi je ne suis pas toute seule, hein, je vis en couple, donc c'est aussi un élément peut-être qui compte, on a décidé de quitter la ville et d'aller donc au bord de la mer. Voilà, donc on est dans cette période de transition, c'est-à-dire que j'ai déménagé, mais par contre on est en location en attendant donc la construction d'une maison, puisqu'on a décidé de construire. Voilà, je veux dire que aujourd'hui j'ai pas envie, enfin je l'ai pas fait, de penser ce que je vais vivre demain par rapport à l'après-demain. Je sais pas si c'est, voilà, c'est ça. Tu vois, on y a pensé bien sûr, parce que quand on construit une maison, donc on a fait des plans, et dans les plans on a prévu une chambre au rez-de-chaussée qui sera accessible si jamais un jour on peut plus monter l'escalier. Tu vois, ça n'a pas été très loin au niveau de la prise en compte du fait qu'on vieillit. C'est plus, on s'est dit, on verra. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut vivre. C'est ça qu'on peut vivre aussi, parce qu'on, voilà, on pouvait faire cette construction en vendant l'autre maison. On a aussi la possibilité de, tu vois, physiquement de participer à la construction. C'est aussi une expérience, qu'on peut faire maintenant et qu'on pouvait pas faire quand on avait 30 ans, quand on avait construit notre première maison. Voilà, c'est comme commencer une deuxième vie, tu vois. Et c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de sens pour nous aujourd'hui à 65, quoi.
On retrouve Simone qui revient sur la place de l'habitat dans les réflexions de Pourquoi pas vieille.
Mais je dirais qu'il y a eu deux entrées. Il y a eu effectivement les personnes qui avaient réfléchi depuis longtemps à l'adaptation, mais de l'habitat en général, hein, pas de leur logement simplement, au vieillissement. Et en disant, on aura besoin de services, on a besoin de solidarité, avec une réflexion sur, et si on mettait les choses ou des choses en commun. Pourquoi pas vieille s'inscrivait très bien, me semble-t-il, dans cette orientation-là. Il y avait un deuxième groupe qui traitait autrement les questions de l'habitat à travers les parents. Et l'exemple d'Elisabeth s'inscrit très bien là-dedans. puisqu'on avait quand même un certain nombre de personnes qui parlaient pour leurs propres parents de leurs expériences et d'elles-mêmes, puisque ça induit des questions sur son propre vieillissement. C'était le groupe Vieillir entre générations. Il y a eu beaucoup de femmes à venir avec cette question-là. Où vais-je vieillir ? Mais c'est une question qui n'est pas propre à pourquoi pas vieille. C'est une question qui traverse le parcours de vie des gens. Et la retraite, c'est quand même le moment où, ou bien on se retrouve en couple, mais où aussi les enfants partent. Donc cette question de habiter avec qui, quand, comment. Et on l'a abordé aussi sous l'angle de son propre vieillissement, puisque dans les émissions précédentes, je me souviens d'une d'entre nous qui disait « mais j'ai du mal à monter mes 3 étages maintenant, ce que je n'avais pas il y a encore un an ou deux ». C'est une expérience que nous faisons tous, les escaliers justement, les risques de chute dont on nous rebat beaucoup les oreilles. Donc voilà, on a eu et on a toujours une réflexion là-dessus, même si on l'habille pas du terme d'habiter tous les jours. Même si on n'a pas un groupe avec cette étiquette-là.
Je sonne aux portes et mes jambes m'emportent. L'escalier gronde que c'est quand même un monde. J'habite aux 2 rue Papillon. Vous reconnaîtrez la maison.
Cette émission m'a donné un peu l'occasion de me dire, mais dans combien de maisons et dans combien d'appartements j'ai vécu? Et comment j'ai vécu? Je me suis rendu compte que c'était quasiment la première fois, donc à la retraite, en vieillissant, avec des handicaps, que je me retrouve à vivre en solo, pour la plupart de mon temps, alors que j'ai vécu au moins dans 5 maisons, dans autant d'appartements, et depuis la naissance jusqu'aux colocations étudiantes, et puis ensuite, quand on achète un appartement ou une maison, ce qui est mon cas, c'est pour fonder une famille, souvent. Habiter, c'est aussi la maison, le chez-soi. Le chez-soi, c'est la famille, pour un grand nombre d'entre nous. Et même quand on n'a pas la famille, je crois que quand on travaille, on circule dedans, dehors, beaucoup plus. Peut-être qu'il y a plus de gens qui viennent aussi. J'essaie de réfléchir tout fort sur la particularité de l'habiter vieux. C'est effectivement se confronter avec le fait qu'on fera peut-être pas demain ce qu'on faisait hier, qu'on n'a pas toute la bande qui habitait dans les murs avant, et donc s'interroger sur comment j'aménage et où je pars et où je vais et qu'est-ce qui existe sur la place locale. Alors les aménagements, alors tu as fait des entretiens, Alexia, avec une partie d'entre nous. Donc on voit bien que les personnes déménagent et aménagent aussi. Puisque Michel, et toi, t'as aménagé.
Oui, oui. Moi, j'habite un appartement que je n'ai pas l'intention de quitter pour l'instant. Et justement, bon, cet appartement, il y a un ascenseur déjà, donc il n'y a pas le problème des escaliers. Et j'ai aménagé aussi l'intérieur, mais enfin c'est pas parfait, mais par exemple j'ai refait ma salle de bain récemment, parce que j'avais une baignoire, et je voyais très bien le jour où je pouvais peut-être monter dans ma baignoire, mais si je pouvais pas en sortir, ça allait être gênant. Donc j'ai fait des transformations de ce côté-là, dans la cuisine également, pour que ce soit plus fonctionnel. Donc pour l'instant, au niveau de l'appartement, je peux y vivre sans problème. Par exemple, si je devais être en fauteuil roulant, c'est problématique, parce que c'est un appartement qui a 50 ans, et les portes ne sont pas assez grande. Et ça, j'en ai fait l'expérience parce que j'avais fait une chute et j'étais donc en fauteuil. Et c'était très compliqué d'aller dans la salle de bain, de tourner dans le couloir. Et même si c'est assez spacieux, les portes n'étaient pas du tout adaptées. Et je vais chez différentes personnes dont certaines ont des problèmes, par exemple, et je vois que le problème existe même dans des maisons confortables et peut-être même plus récentes. Et c'est pour ça que, moi j'ai des amis qui, à 60 ans, ont quitté leur maison, qui était, ma foi, bien confortable, pour construire une nouvelle maison qui était entièrement équipée pour un vieillissement qui pouvait poser problème. Il y a des gens qui prévoient. Et là, tout était prévu. Oui. Claire, tu veux intervenir ?
Bon, moi je n'ai pas tout prévu. J'ai déménagé il y a un an et demi pour venir à Brest parce que j'habitais à la campagne. Fougerneau, un peu loin de tout. Par contre, j'avais des amis qui habitaient tout près de chez moi, donc j'ai mis 3 ans avant de me décider, quand même, parce qu'il fallait que je les quitte. Mais je me suis dit que je suis assez valide pour pouvoir me refaire un réseau d'amitié sur Brest. Voilà. Donc j'ai cherché un logement, mais en location, parce que je ne suis pas propriétaire. Et qui soit dans qui aille avec mon budget. Bon, je suis au premier avec escalier. Ça va. Par contre, dans l'appartement, j'ai pu circuler avec un fauteuil roulant.
Ah, ouais.
Oui, quand j'avais mon pied dans le plâtre, j'avais un fauteuil roulant. Je pouvais pas aller dans ma chambre, mais comme il y a 2 chambres, je me mettais dans l'autre. Hein, c'est pas un problème. Voilà. Mais c'est vrai que je suis pas partie en me disant il faut absolument que je sois au rez-de-chaussée ou avec ascenseur, parce que j'ai eu du mal à trouver, quoi, tout simplement. Je me suis dit, je suis encore valide, je peux monter. On verra plus tard. De toute façon, je n'ai jamais passé plus de 17 ans dans un endroit, donc on verra ça dans 10 ans, si je peux rester là, mais voilà, quoi. Et c'est vrai que je me suis posé quand même la question en déménageant. Est-ce que je fais bien, déjà, de quitter mes amis? Est-ce que je vais avoir la force de faire d'autres connaissances? Parce que pour moi, je trouve que c'était effectivement l'essentiel. Plus que l'appartement, on peut toujours l'aménager plus ou moins. Hein. Voilà.
J'habite au 4 rue de la Lune. Ceci est un couplet nocturne.
C'est une négociation avec soi-même et avec ses désirs et ses plaisirs. Parce qu'évidemment, le modèle qui nous est donné, et tu nous l'as dit 3 fois, 4 fois, 10 fois, anticipation, exécution. C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'anticiper sur le marché, même quand on a des sous, il n'y a pas des tonnes de choses adaptées. Donc, je rappelle quand même que le projet de loi, c'était adaptation de la société au vieillissement, anticipation, c'était la société, alors que là on revient toujours sur mais tu es Benette ou je sais pas quoi, vous êtes Benoît, vous êtes stupide, vous n'avez pas été foutu d'anticiper tout ça. Eh ben oui, bon, on a pourtant vu nos parents, on a pourtant vu ceci et cela.
Il n'y avait pas d'injonction à l'anticipation, hein, c'était pas ça l'objet, mais c'était de voir comment, quand on vieillit et qu'on se retrouve un petit peu freiné par rapport à des inconforts dans son habitat. Est-ce que c'est subi? Enfin, ça renvoie à l'exemple cité au tout début par Elisabeth. Est-ce que de penser son vieillissement et son habitat, ça peut être accompagné, anticipé. Enfin, c'était ça un peu. Toi, tu parlais de négociation tout à l'heure, Simone. Comment on négocie ça ou est-ce qu'on négocie pas? Et après, c'est plus ou moins subi. Est-ce qu'on négocie ça soi-même, avec ses enfants, avec son environnement? La question du voisinage, elle est essentielle. Hein. Enfin, c'est ce que disait Claire aussi. Elle s'impose, cette question-là, quand on a un choix à mener pour se faciliter la vie. Il y en a qui souhaitent aussi rester sur le présent parce qu'ils n'ont pas le même âge non plus. Hein, mais en tout cas, On se construit par rapport à son chez-soi, on y mène son parcours, c'est un petit refuge aussi. Enfin, en tout cas, voilà, il y a forcément une négociation à mener et comment elle peut être faite de manière la plus confortable. Et je crois qu'en partageant chacun ses expériences en fonction aussi de la manière dont il a vécu, toi Simone, tu disais que tu avais grandi dans une ferme, enfin, en tout cas avec cette dynamique de rencontres, enfin de passages, et comment on peut faire évoluer sa manière, son lieu de vie en fonction de qui on est et de ce qui s'impose à nous à un moment où on a pas toujours le choix, quoi. Je sais pas, Margot, si tu veux intervenir aussi, hein, tu peux intervenir.
Pour ajouter un truc sur le fait de... je trouvais intéressant, Simone, ce que tu dis sur le fait de l'anticipation. Tu parles justement de... les vieilles personnes n'anticipent pas forcément les choses. Et moi, je me demande... Enfin, en tout cas, mes grands-parents, ils ont été confrontés à ce même problème dont vous parlez. Ouais. Et ma grand-mère, elle est tombée malade. Du coup, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant. Et mon grand-père a tout dû réadapter, justement, l'habitat pour que ça soit fonctionnel. Mais c'était très difficile justement de rester dans cet habitat-là, parce que mon grand-père, lui, il avait aussi des problèmes de santé, du coup c'était très compliqué. De pouvoir vivre. Oui. Mais je me suis dit, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un refus de prévoir le moment où fatalement ça arrivera, où fatalement on aura à changer certains aménagements. Est-ce que c'est pas aussi
On repousse.
Je trouve intéressant dans le cadre de cette émission de partager les expériences que chacun ou les négociations que chacun mène par rapport à son propre vieillissement et peut-être de s'émanciper un petit peu de ces injonctions qui entourent ce bien vieillir et ne pas trop déranger. Bon, c'est des réflexions à partager parce que on peut s'inspirer et s'enrichir les uns les autres par rapport à ces préoccupations qui arrivent à un moment donné, quoi.
Bon, je pense à propos de l'anticipation, et puis du dérangement, à propos de l'anticipation, de toute façon, on ne se sent pas spécialement vieille, quoi. Hein? Alors, comment anticiper? On se dit qu'on aura le temps, de toute façon, non? Moi, je trouve qu'on ne se sent pas... On sait qu'on vieillit, qu'on va mourir avant la petite fille, ça c'est sûr, mais voilà, quoi. Et au niveau du dérangement, je trouve que c'est un peu grave que les vieilles personnes trouvent qu'elles dérangent et qu'on se dise qu'il faut qu'elles dérangent, quoi. Ça, c'est... Dans notre société, c'est un petit peu dommage que les vieilles personnes soient considérées comme dérangeantes. Voilà.
Eh bien, nous terminons cette première émission qui s'inscrit dans une série Habitat et vieillissement. Donc aujourd'hui, nous avons abordé la question du chez-soi à travers le temps. Comment vieillit-on chez soi? Comment fait-on évoluer notre lieu de vie? Est-ce qu'on l'aménage? Est-ce qu'on le quitte? Donc on a eu différents témoignages, notamment des témoignages de déménagement. Donc qu'est-ce qui se négocie dans la manière de faire évoluer cet habitat ou ce lieu de vie? Nous nous retrouverons le mois prochain pour poursuivre cette série. Nous quitterons l'espace domestique pour nous aventurer dans l'espace proche, à savoir le quartier, l'environnement immédiat du lieu où on vit. Donc on se posera différentes questions. Qu'est-ce qu'on y fait? Comment on se déplace? Qui rencontre-t-on? Voilà, donc rendez-vous est donné pour le mois prochain. Avant de vous quitter, donc je tiens à remercier toutes les membres de l'association Pourquoi pas vieille qui ont participé à cette émission. Et merci également à Margot qui a enregistré le son. Et je vous propose de terminer avec la chanson qui nous a accompagnés tout au long de cette émission, à savoir la chanson de Thomas Fersen, L'escalier.
L'escalier tourne dans l'immeuble où je perche, l'escalier monte. Au septième où je crèche, quand dans sa vrille, je lâche une bille à la rambarde, j'écoute sa cascade jusqu'à la rue, sa course tordue, je lâche un rot dans ses anneaux, je sonne aux portes et mes jambes m'emportent, l'escalier gronde que c'est quand même un monde, j'habite aux deux rue Papillon, vous reconnaîtrez la maison. Chaque nuit, l'escalier me tourmente. Dans son puits, monte mes eaux dormantes. Je vois des pièges dans ses arpèges. L'escalier craque, la concierge me traque. À coups de trique, j'apprends la musique, le son de morale. Dans la spirale et dans la cage, je promets d'être sage. Parole d'oiseau, derrière les barreaux. J'habite au 4 rue de la Lune. Ceci est un couplet nocturne. Chaque jour, je grandis de la sorte. Qu'un beau jour, je me baisse aux portes. Quant à l'amour, je tourne autour. Dans l'escalier, quand elle me dit bonjour, c'est un rosier grimpant dans une tour. Contre la rampe, entre deux lampes. Et dans ses bras, je quitte la jungle. Sous le riz, nous quittons la mairie. J'habite au 6 rue de la Gaîté. La porte n'est jamais fermée.